trois semaines, je crois, que je ne suis pas venu. On a vadrouillé. Je ne sais pas ce que vous faites pendant les vacances. Ah ben. Mais une des choses qui est très bien de faire pendant les vacances, c'est de contempler la création. Vous saviez ça ? Je ne sais pas vous, mais moi, quand on est dans le feu de l'action, avec le travail, avec toute la famille et tout, ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de soucis. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Pour nous apaiser, pour nous calmer, il dit « Regarde, regarde les petits oiseaux, regarde comment Dieu en prend soin, comment il maîtrise toutes ces choses et on n'a pas besoin de rentrer dans les inquiétudes, mais comme Aline a prophétisé ce matin, Dieu est en contrôle de toutes choses. » Alors on va rester un petit peu à l'école, on va aller à l'école pour adultes ce matin. J'avais envie qu'on plonge les regards un peu plus en profondeur, peut-être d'une manière dont on ne le fait pas forcément toute l'année, au niveau de la création de Dieu, et voir des choses extraordinaires quand on s'attarde à regarder ce que Dieu peut faire. Peut-être, je voudrais commencer par Amens, il y a une vidéo. Elle est prête, hein, il faut juste la lancer. Ça dure 30 secondes. Une des manières dont j'aime bien plonger mes regards dans la création, c'est en lisant ou en fouillant sur Internet, sur les découvertes. Là, on part de l'infiniment grand. Ah, peut-être il faut éteindre la lumière. Bon, ça va. Dix puissance, c'est la distance à chaque fois, et on se rapproche. Elle est là, notre planète. Bien sûr, on arrive en France, comme par hasard. Par contre, dans le nord, ils se sont trompés. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Partout où on regarde, on peut voir Dieu. Est-ce que vous en rendez compte ? Est-ce qu'on s'en rend compte ? Partout où je regarde, je peux voir Dieu. C'est extraordinaire. Alors, j'ai intitulé « Le plus grand des hasards » ou « Le plus grand architecte ». Parce que quand on parle de science et de foi, souvent on a tendance à les opposer. Et la société a poussé longtemps à opposer la science et la foi, comme si la science démontrait les choses et la foi, ben, c'était quelque chose de pas forcément très bien. Et ce matin, on va encore pousser, je sais que Joël fait ça très bien, et je ne sais pas si l'étude d'ailleurs est toujours sur le site qu'il a faite, allez la réécouter, ça fait toujours du bien de plonger là-dedans pour avoir un argumentaire par rapport à cette thématique-là. Mais on va voir que la science, en fait, elle peut être et elle est le plus grand ami de la foi quand on la considère du point de vue de Dieu. Martin Luther King disait « Il peut y avoir conflit entre homme de religion à l'esprit débile et homme de science à l'esprit fermé. » Il était tranché. Hein. Mais non, point entre science et religion. D'accord ? Louis Pasteur, lui, a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science y ramène. » Alors, là où on est souvent attaqué, bien sûr, comment croire aujourd'hui au premier chapitre de la Genèse, celui-là, qui parle de la création ? La science n'a-t-elle pas prouvé que tout existe par celui qu'on appelle le hasard ? Alors, la pensée athéiste dans la société a eu, je ne sais pas si elle a toujours tendance à faire de la science un ennemi de Dieu et de la foi. La science, donc, comme j'ai dit, prouve les choses, alors que la foi, soi-disant, infantilise, elle infantiliserait. En regardant un peu à l'histoire, on est quand même forcé d'admettre que la religion a été débile, comme le dit Martin Luther King. Galilée, quelques exemples, a dû renier l'héliocentrisme publiquement face à l'Église. Certaines rumeurs populaires mentionnent que l'Église se serait opposée à l'idée que la Terre était ronde. Quand on regarde des séries du Moyen-Âge ou des films, on se rend compte que très facilement, l'Église aura eu tendance à démoniser ou à dire que les personnes qui étaient malades ou avaient telle maladie, ben elles étaient ensorcelées. Et il y a plein d'autres exemples par rapport à cela. Et tout cela venait du fait que, à l'époque, la science était quelque chose qui venait des Grecs, comme avec des gens comme Aristote, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et donc, c'était considéré comme quelque chose de païen. Et donc, forcément, l'Église l'a poussé dehors. Une des choses auxquelles on doit faire attention aujourd'hui, c'est que la religion ne continue pas de faire cela. En effet, on peut facilement, quand on se balade sur Internet et sur les sites chrétiens, voir beaucoup de choses contre la science moderne, notamment si on considère la théorie de l'évolution de Darwin ou la formation de l'univers avec la théorie du Big Bang. J'ai envie de dire une chose ce matin, c'est que la science, en fait, elle n'a pas d'autre explication aujourd'hui pour expliquer le monde animal et végétal. Elle n'a pas d'autre explication que l'évolutionnisme ou le Big Bang pour expliquer la formation de l'univers. Mais est-ce que ça s'oppose à ce que la Bible nous enseigne ? Est-ce que ça s'oppose à la foi ? La réponse est bien sûr non. Rappelons-nous ce que dit Louis Pasteur : un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous y ramène. Et j'ai envie de dire ce matin, en courant vers Dieu. Et on va le voir. Plus la science cherche, pour moi, plus elle trouve des choses. Et plus elle découvre ce qui est caché derrière le grand chef-d'œuvre de la création. Alors, bien sûr, il existe des grandes gueules dans la société. Je ne sais pas si vous écoutez RMC à la radio. Mais dans le monde scientifique, il y en a aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Stephen Hawking, qui est décédé malheureusement cette année, qui était un grand physicien et cosmologue réputé, et qui, lui, a osé déclarer publiquement que Dieu n'existait pas et qu'il croyait fortement au calcul et à la science. Mais honnêtement, face à ce genre de personnes, quels réflexes avons-nous ? Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qu'ils disent de cela. Quel est leur argumentaire ? Et honnêtement, pas très convaincant. Voilà. Il n'y a pas d'argumentaire développé face à l'existence de Dieu. C'est juste des personnes influentes qui disent des choses. Mais si on regarde l'argumentaire, et alors ? Ils affirment juste des choses, en fait. Il n'y a pas de démonstration qui sont sous-entendues. Si vous voulez vous renseigner bien sur Stephen Hawking, vous savez qu'est-ce que vous devez faire ? Bon, lire les bouquins, ça oui, mais c'est assez compliqué. Regardez la série Flash. Je ne sais pas si... s'il y en a qui sont amateurs, parce que Stephen Hawking et un scientifique qui a beaucoup, alors qui a fait des calculs sur des choses au niveau de la cosmologie, mais surtout, il est très futuriste et avant-gardiste, et c'est lui, par exemple, qui a théorisé sur la théorie des trous de ver qui permettent les voyages dans le temps. Il a parlé des théories sur le multivers, ça vous parle ? Donc, c'est des théories qui disent qu'il n'existe pas qu'un seul univers, mais donc il n'est pas univers, mais il est multi. Il est multiple, donc le multivers. Voilà. Là, on rentre clairement dans le domaine de la science-fiction. Et cet homme a passé beaucoup, beaucoup de sa vie là-dedans. La création d'elle-même parle de son créateur. Et avec les découvertes des 50 dernières années, ils deviennent de plus en plus, pour moi, ridicules de laisser place au hasard. Et c'est là l'intérêt de la science. C'est qu'en plongeant les regards profondément dans ce qu'elle découvre, en fait, on va vraiment rire si on laisse ça au hasard. En tant que chrétien, nous pouvons voir la science comme un grand ami, car elle découvre les comment de la nature, puis elle révèle la grandeur et la puissance de Dieu. Alors, j'ai un petit peu défendu le point de vue scientifique, mais en même temps, il est intéressant de rester dans ce que ces théories apportent. Par exemple, est-ce qu'on peut croire aujourd'hui que l'on peut créer une planète en un jour ? Est-ce que c'est rigolo, ça ? La Bible est souvent attaquée sur ça, sur le fait que la Terre, elle a des milliards d'années et qu'en un jour ou une semaine, il n'est pas possible de créer l'univers. Personnellement, moi je suis ouvert au fait que le mot « jour » qu'on trouve dans le premier chapitre de la Genèse, ben en fait désigne une longue période. Pourquoi pas des milliards d'années ? Voilà. C'est un mot qui laisse la place à cela dans la traduction hébraïque. Mais j'aime aussi rappeler qu'une théorie, c'est un chemin qu'on explore. Les conclusions des théories sont des hypothèses plus ou moins probables et non des vérités absolues, tant qu'elles n'ont pas pu être vérifiées. Et quand on prend ces grandes théories, on en est dans l'exploration, dans la recherche. Et ça, c'est génial. Il faut valoriser ça. Et c'est pour ça qu'encore récemment, aujourd'hui, on voit que les classifications des espèces, par exemple, continuent d'évoluer. Parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Les théories, là, l'année dernière, les théories sur la force gravitationnelle, ça aussi c'était un dada de Hawking, sur la présence de la matière noire qui expliquerait la formation de l'univers, parce qu'ils ont un problème de masse. Il y a un monsieur qui s'appelle Eric Verlinde qui est en train de complètement balayer ça et de proposer un autre modèle. Voilà. Tout ça, c'est pour dire que la science cherche et elle évolue sans cesse. Et ce ne sont pas des vérités scellées dans le marbre, toutes ces choses-là, mais c'est une approche. Juste pour revenir à cette question, est-ce qu'on peut croire qu'une planète peut être créée en un jour ? Je répondrai par une citation de ce monsieur, Bill Bryson, qui est récipiendaire du prix Avensis, du meilleur livre de vulgarisation scientifique et du prix Descartes qui a été délivré par l'Union européenne. Donc c'est un gars qui a du poids. Et il dit « C'est ainsi que du néant commence notre univers. En un éclair, un instant de gloire. » C'est la Bible là ? Ah non. « Trop rapide et vaste pour être décrit, la singularité prend des dimensions célestes et devient espace au-delà de toute imagination. » Donc vous voyez que même les grands scientifiques sont ébahis face à ce qu'ils découvrent. De cette première seconde naissent la gravité et toutes les lois de la physique. En une seconde, tout ça, ça naît. Et puis il dit, en moins d'une minute, l'univers s'étend sur 1 million de milliards de kilomètres. Une minute. Waouh! La température est alors très élevée, des particules apparaissent, et en 3 minutes, 98% de toute la matière qui existe ou existera jamais est produite. Conclusion, nous avons un univers. Tout cela s'est produit dans le délai qu'il nous faudrait pour faire un sandwich. Est-ce ridicule, ceux qui pensent que on peut construire une planète en un jour ? Ben, pas forcément. Est-ce la vérité ? On ne sait pas, mais on laisse les scientifiques chercher. Et c'est intéressant. D'accord ? Alors, on va passer un petit peu plus à l'offensive. J'ai défendu le côté de la science, mais on va aussi passer à l'offensive du côté christianisme. Et on va aller titiller les partisans du hasard sur leur terrain, sur le terrain de la science. Quelques citations. Il semble bien improbable qu'un tel ordre soit sorti du chaos. Il doit y avoir un principe d'organisation. Donc là, il parle de l'univers. Pour moi, Dieu est un mystère, mais il est l'explication du miracle de l'existence, la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. Ce n'est pas n'importe qui dit ça. Ce monsieur est un cosmologue réputé pour avoir vérifié les mystères des quasars, révélé l'âge des agglomérations globulaires, identifié les galaxies, les distances des galaxies lointaines, etc. C'est un grand monsieur. Un autre, Robert Griffiths, qui est lauréat du prix Danny Eman, c'est un prix en physique mathématique. Si nous avons besoin d'un athée pour un débat, je vais au département philosophie. Le concours du département physique serait bien maigre. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que quand on étudie vraiment la science, ben c'est compliqué d'être athée. Celui-là, je vous laisse le lire. Donc, c'est aussi un astrophysicien spécialisé dans l'extragalactique. Enfin, voilà, vous lisez. Et il a dit, la biologie ne connaît pas les processus qui ont mené des atomes inanimés à la vie. Je ne sais pas si vous aimez aller lire, là, je lis en général chaque été là-dessus. Et ils y sont presque à mettre plein de choses ensemble et d'attendre que la vie apparaisse. Parce que le but, c'est à partir de la matière inerte de faire naître la vie. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Bon, il y en a qui vont dire que ça n'arrivera jamais, et puis il y en a qui continuent à chercher ça. Et lui, il dit, l'émergence de la vie dépend en effet d'un réglage extraordinairement précis des conditions initiales et d'une poignée de constantes physiques. Changer un tant soit peu l'une de ces conditions, et nous ne serions plus là pour en parler. La précision avec laquelle il faudrait régler ces différentes conditions est constante pour aboutir à un univers comme le nôtre, équivaut à la précision qu'un archer devrait avoir pour placer une flèche dans une cible de 1 cm carré à une distance de 15 milliards d'années-lumière. C'est rigolo, mais tout ça, c'est des calculs sérieux, et c'est juste pour dire, voilà, je veux bien croire au hasard, mais alors, il est incroyable ce hasard. Hein, il mérite presque notre adoration. Une autre citation du docteur Francis Collins, médecin généticien, qui a été nommé par Obama au NIH, c'est le plus haut institut aux États-Unis. Il a présidé le projet du décodage du génome humain et il a reçu deux médailles, la Presidential Medal of Freedom et la National Medal of Science. Et lui, il dit, il existe de bonnes raisons de croire en Dieu. D'accord ? C'est une pointure scientifique et il dit la foi, elle est raisonnable. Notamment l'existence des principes mathématiques et l'ordre de la création. Il s'agit de raisons positives fondées sur des connaissances plutôt que des hypothèses par défaut basées sur un manque temporaire de connaissances. Il n'y a pas beaucoup de place au hasard, d'accord ? La science, elle est l'amie de la foi parce qu'elle nous permet de découvrir, waouh, ce que fait Dieu et comment il le fait. On peut continuer. J'ai répertorié quelques grands hommes célèbres. Voilà, au cas où on continuerait de vous titiller. Mais est-ce que comment tu fais pour croire? Ben, excuse-moi, il n'y a pas que moi. On peut citer Robert Boyle, le père de la chimie moderne, Grégory Mendel, la génétique, Thomson, la thermodynamique, Pasteur, le plus grand nom de la bactériologie, Dalton, la théorie atomique, Pascal, un des plus grands mathématiciens, Ré, histoire naturelle, Steno, géologue, Linnaeus, classification biologique, Cuvier, anatomie comparative, Maury, océanographie, Anderson, chimie organique, Morse, l'inventeur du télégraphe, etc., etc. Voilà, il y en a plein. Hein. Hop, bien sûr, lui. Tous ces noms ont simplement confessé publiquement leur foi. Donc, on est en train de parler du gratin intellectuel qui, publiquement, face à leurs recherches, face à ce qu'ils ont découvert, ont plié le genou et ont dit « Waouh, Seigneur, c'est incroyable !» Rappelons-nous ce que dit Pasteur, « Beaucoup de science ramène à Dieu. » La Bible nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, waouh, donc ce qui est invisible, se voit comme à l'œil depuis la création du monde, ou ça quand on les considère dans ses ouvrages. » D'accord ? Plonger les regards dans la création de Dieu en utilisant la science, ben, nous fait voir la puissance, la divinité, les perfections de Dieu. Alors on va plonger un petit peu plus en profondeur sur certaines choses. Bon, bien sûr, on peut faire qu'un survol. Joël avait fait une étude de 3 heures et je pense que ça ne suffisait pas. On ne peut que survoler un dimanche matin. On reparle de l'ADN. Hop, ça, c'est une cellule. Dans les cellules, il y a ces petits hélicoptères, là. On appelle les chromosomes. Dans les chromosomes, c'est comme ça. Et hop. Et l'assemblage de ces fils, je ne sais pas comment on peut les appeler. Les brins, bon. Ça, c'est fait avec l'ADN. Ça s'appelle l'ADN. Le corps humain compte environ 60 milliards de cellules. J'ai pris la fourchette basse. Il y en a qui disent entre 60 et 80. Leur ADN déplié, donc du corps humain d'un homme, mis bout à bout, ça permettrait de couvrir 800 fois la distance Terre-Soleil. 300 000 fois, ça équivaut à 300 000 fois la distance Terre-Lune et ça équivaut à 3 millions de fois le tour de la Terre. Waouh ! Ça ne vous parle pas de Dieu, ça ? Et tout ça, dans chaque corps. Si on voulait taper les lettres du génome, donc le séquençage du génome humain, à raison d'un mot par seconde, donc assez rapidement quand même, 8 heures par jour, il faudrait environ 50 ans pour le transcrire. Waouh ! Le hasard, il est fort quand même. Il y a un monsieur qui s'appelle Salisbury, qui s'est amusé à calculer la probabilité d'apparition spontanée de l'ADN. Vous savez, les scientifiques qui se fritent, et ceux qui sont partisans du hasard disent, voilà, vous mettez les molécules ensemble, et pouf, ça va naître tout seul. Et lui, il a calculé la probabilité, compte tenu de faits scientifiques, parce qu'il faut des myriades de réactions chimiques pour que l'ADN apparaisse. C'est pour juste nous dire comment le corps humain est bien fait. Et il a découvert qu'il y avait une chance sur 10 exposants 600. Ça veut dire 10 avec 600 zéros derrière. Il y a une chance sur ça pour que ça se fasse tout seul. Waouh ! Le hasard, il prend cher. Ensuite, on peut s'arrêter un petit peu sur le cerveau. Il compte 100 milliards de cellules nerveuses. Autant que d'étoiles dans notre galaxie. C'est fou, hein ? Il peut trier 100 millions de messages à la seconde. Il contrôle simultanément les systèmes circulatoires, digestifs, respiratoires, nerveux. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, Joël, mais j'ai mis etc. Il peut enregistrer les informations de 20 millions de livres de taille moyenne. Waouh ! Incroyable. Le docteur, bon, il doit être indien celui-là, directeur du Centre du cerveau et de la cognition, il dit le cerveau humain est la forme de matière organisée la plus complexe de l'univers. On estime que le nombre de permutations et de combinaisons possibles dans l'activité cérébrale surpasse celui des particules élémentaires dans l'univers. Waouh ! On a un univers, là, à l'intérieur de notre boîte crânienne, tellement c'est compliqué ce qui se passe là-dedans. Suzanne Griffield, donc elle aussi, c'est une grande chercheuse, elle dit que le cerveau humain représente l'énigme suprême. Comment une masse de tissu ayant la consistance de l'œuf cru peut-elle être à l'origine de notre esprit, de nos pensées, de notre personnalité, de nos souvenirs, de nos sentiments, bref, de notre conscience même. Est-ce le hasard qui crée ces choses-là ? L'odorat. Reconnaître une odeur fait appel à 6 millions de neurones. Waouh ! Grâce à notre épithélium olfactif, nous pouvons détecter 1 sur 460 millions de milligrammes d'une substance en une seule bouffée d'air. Ça ne vous impressionne pas, moi, ça me... Waouh ! C'est hallucinant comment on est fait. Alors lui pour ceux qui étudient l'anatomie, c'est le pire. Ça, c'est la bête noire des scientifiques qui sont athées. Même alors Darwin a dit, alors qu'il est à l'origine de la théorie de l'évolution, il dit « Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil. Tout, il est OK. Mais l'œil, c'est pas possible. Avec tous les inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à diverses distances, d'admettre une quantité variable de lumière, de corriger les aberrations sphériques et chromatiques. » Voilà. Si ceux qui étudient l'œil peuvent pas dire « Oh ben, il s'est fait par hasard. » L'œil est composé de 130 millions de cônes et 7 millions de bâtonnets. La rétine reçoit l'image par le cristallin qui s'ajuste automatiquement pour donner une image précise à n'importe quelle distance. L'iris s'ajuste aussi automatiquement à la quantité de lumière afin d'éviter l'éblouissement. Les deux yeux travaillent en synchronisation pour obtenir des images 3D. Alors, l'argument connu, qu'on appelle l'argument de Palais, il dit en traversant une bruyère, si je trébuche sur une pierre et qu'on me demande comment elle se trouvait là, on pourrait répondre facilement qu'elle était toujours là, cachée derrière la bruyère. Mais si je trouve une montre par terre, il ne me viendrait pas à l'idée de donner la même réponse. La montre avait dû avoir un fabricant, quelqu'un qui l'a conçu et façonné. Toute trace d'invention, de créativité qui se trouve dans une montre existe également dans la nature, à la différence que dans le naturel, celles-ci sont bien plus prononcées au-delà même de tout entendement. D'accord ? Quand on plonge les regards sur comment les choses sont faites, on ne peut pas dire que c'était toujours là et que c'est le hasard qui a fait les choses. Alors, dans la nature aussi, j'ai mis quelques exemples. Vous saviez-vous que le vautour plane parmi les avions ? Extraordinaire. L'aigle royal peut détecter une souris à 1,5 km de distance. Le scarabée rhinocéros peut soulever 100 fois sa masse. Le cercope, ça doit être une petite puce, saute 70 fois sa taille. Le poisson-chat possède 100 000 papilles gustatives, alors que chez l'homme, il n'y en a que 10 000. La crevette mante possède le système de vision le plus développé. Elle peut voir en 3D avec un seul œil. Le pic et pêche peut le comment il s'appelle dans Disney? Woody Woodpecker peut frapper avec son bec à la vitesse de 25 km/h. Waouh. La nature est incroyable. Incroyable. Ce que Dieu a fait, c'est juste waouh, époustouflant. La science est notre meilleur, pas notre meilleur, mais c'est un très très bon ami, d'accord ? C'est un très bon ami de la foi. Quand on plonge les regards vraiment en profondeur, bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que il existe un horloger ou un architecte ? Je citerai, j'ai bientôt fini, Monsieur Denton, directeur du Centre génétique de Sydney, qui a travaillé voilà, dans plusieurs endroits. Il dit « Ceux qui militent si fortement contre l'idée du hasard, c'est le caractère universel de la perfection. » On a commencé par la vidéo de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Partout où on regarde, on voit un caractère de perfection. Le fait que partout où on regarde, à quelque échelle que ce soit, on trouve une élégance, une ingéniosité d'une qualité absolument transcendante. Alors, est-ce raisonnable de laisser une quelconque place au hasard plutôt qu'à Dieu ? Et je finirai par ce monsieur qu'on connaît. Tous ceux qui abordent la recherche scientifique avec tout le sérieux que cela exige finissent par être convaincus qu'il est indéniable qu'un esprit intervient dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme et en face duquel nous, avec nos limites, nous devons éprouver une saine humilité. En cela, la recherche scientifique éveille un sentiment religieux particulier qui n'a rien à voir avec la religiosité d'une personne naïve. Avoir la foi, ce n'est pas être infantile. Au contraire, c'est être très raisonné et avoir les yeux ouverts sur comment sont vraiment créés, constitués, tout ce qui nous entoure. La Bible dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » On le lira peut-être un petit peu différemment avec notre œil, notre cerveau, l'odorat et puis tout ce qui compose notre corps. Oui, nous sommes une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Pour que mon âme le reconnaisse, il faut que j'aille fouiller. Allez sur Internet, allez regarder les dernières théories, regardez comment les choses sont faites, c'est juste extraordinaire. Apocalypse 15, il chante un cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tes œuvres sont grandes et admirables. J'aimerais vous demander de vous lever, puis on finit en priant.